Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers amis, chers étudiants, bonjour et bienvenue. Je voudrais commencer mon introduction générale en vous lisant deux extraits de texte que plus de 60 ans séparent. Un extrait d'un discours prononcé en 1946 par le procureur général Dale Wade et un extrait des développements d'une proposition de loi déposée au Parlement belge en 2011. Commençons par le discours prononcé en 1946. À cette date, les femmes belges ont accès au barreau, mais elles n'ont pas encore accès à la magistrature. Cet accès ne leur sera accordé que 2 ans plus tard, en 1948. C'est d'ailleurs à cette date, en 1948, que le droit de vote leur sera également reconnu. Le procureur général Dale Wade, dans un discours qui fera grand bruit, défend la nécessité de maintenir une magistrature exclusivement masculine. Parmi les différents arguments qu'il avance, il avance l'argument de la confiance du justiciable dans l'institution judiciaire. Il s'est exprimé en ces termes, et je le cite. « L'État impose au justiciable ses juges. Il est donc de toute nécessité qu'il désigne ceux en qui le public aura le plus confiance. Il ne faut en effet à aucun prix qu'il porte atteinte à la fois touchante des humbles dans l'infaillibilité des juges. Et comment voulez-vous que cette fois s'accommode de la présence au siège de magistrats en jupon qui déconcertera un très grand nombre ? Or, sans confiance, le rôle du juge est presque nul. » Fin de citation. Récemment, des propositions de loi ont été déposées devant le Parlement belge afin d'imposer une représentation d'au moins un tiers des femmes au sein des juridictions supérieures. Selon les auteurs de ces propositions de loi, une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la magistrature et en particulier au sein des juridictions suprêmes serait une condition de sa légitimité. Les auteurs des propositions de loi s'expriment dans les termes suivants et je les cite. L'opinion publique mondiale prend de plus en plus conscience qu'il est indispensable que les juridictions suprêmes soient composées de manière équilibrée en vue de créer un climat de confiance dans le pouvoir judiciaire. Or, un tel climat est essentiel pour que l'état de droit démocratique puisse continuer à compter sur l'assentiment des citoyens. La parité dans la justice est une exigence fondamentale. Le caractère démocratique... Le caractère démocratique des institutions, y compris le pouvoir judiciaire, requiert une composition équilibrée dans une perspective de société. Fin de citation. Je vais essayer d'être plus lente. Ce qui frappe lorsqu'on lit ces deux extraits, c'est que tant la nécessité d'exclure et de continuer à exclure les femmes de la magistrature que la nécessité d'imposer une représentation minimale des femmes au sein des juridictions suprêmes ont toutes les deux été justifiées en convoquant le même argument, l'argument de la confiance du public dans la magistrature. Il y a un peu moins de 70 ans, certains soutenaient que les femmes ne pouvaient pas devenir magistrates, ne devaient pas devenir magistrates, parce que ce faisant, le public aurait perdu la confiance qu'il avait dans l'institution judiciaire. Les justiciables n'auraient plus confiance dans l'institution judiciaire si des femmes y siégeaient, parce que les femmes ne présenteraient pas les qualités requises à l'exercice de la fonction. Elles ne seraient pas suffisamment sereines, elles ne seraient pas suffisamment assidues, et elle n'aurait pas le prestige nécessaire à l'exercice de la fonction. 70 ans plus tard, une telle position apparaît grotesque, et heureusement, il est douteux qu'il puisse être exprimé dans les mêmes termes. Il est intéressant que 70 ans plus tard, on ait fait appel au même argument de la confiance du public dans la magistrature. Cette fois-ci, ce n'était plus pour justifier l'exclusion des femmes de la magistrature, mais bien au contraire pour imposer un quota d'au moins un tiers de femmes au sein des juridictions supérieures. On a renversé l'argument. Le déséquilibre dans la représentation des hommes et des femmes au sein des juridictions supérieures porterait atteinte à la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Pour que le public ait confiance dans le pouvoir juridictionnel et que sa légitimité soit donc assurée, il serait nécessaire que les deux sexes soient représentés de façon équilibrée aux échelons supérieurs de la magistrature. Une telle affirmation mérite d'être questionnée et mise en perspective, et c'est ce que nous proposons de faire dans ce colloque. Questionner et mettre en perspective le genre, la diversité de genre dans la magistrature est particulièrement intéressant. Parce que cela permet d'éclairer non seulement le genre, la diversité de genre, mais également la fonction de juger. Des éclairages sur le genre d'abord. Questionner le genre et la diversité de genre dans la justice devrait en effet nous éclairer sur la façon dont nos genres éventuellement nous structurent et éventuellement structurent nos actions et nos décisions. Mais cela devrait également nous apporter des éclairages sur la fonction de juger. Questionner la diversité de genre dans la magistrature contribue à dévoiler le rôle du juge dans nos démocraties, ou plus exactement la représentation que l'on se fait de ce rôle, ou à tout le moins de ce que devrait être ce rôle. Questionner le genre dans la magistrature devrait nous amener à réfléchir aux conditions auxquelles la magistrature doit répondre pour être légitime. Dans son discours, le haut magistrat Dale Wade défend la nécessité de continuer à maintenir les femmes hors de la magistrature, car elles n'auraient pas les qualités nécessaires à l'exercice de la fonction, à savoir la sérénité, l'assiduité et le prestige. Les justiciables ne pourraient donc pas faire confiance au pouvoir judiciaire s'il était exercé aussi par des femmes. On aperçoit donc en négatif que pour l'auteur, les juges doivent être assidus, sereins et prestigieux, et que l'exercice du pouvoir judiciaire n'est acceptable que si les justiciables ont confiance en ceux qui l'exercent. Cet exemple révèle donc avec force, me semble-t-il, qu'étudier et parler de genre et de diversité de genre dans la magistrature, c'est autant parler de genre que de magistrature. Il y a bien entendu plusieurs façons d'appréhender la question du genre dans la magistrature, et nous en avons choisi une. Je vais maintenant vous présenter le cadre conceptuel dans lequel s'inscrit ce colloque. Je vais commencer par développer les constats qui sont à la base de ce projet. Je vous présenterai ensuite les hypothèses que nos intervenants ont accepté de tester pendant ces deux journées d'études. Et enfin, je passerai en revue les différentes sessions du colloque. Commençons donc par les constats. Ces constats constituent véritablement le terreau dans lequel ce colloque prend racine. Et nous en avons posé trois. Le premier constat touche à la réalité de la présence des femmes dans la magistrature et à la disparité qui existe de ce point de vue entre les pays de tradition common law et les pays de tradition civiliste. À travers le monde, 27% des juges sont des femmes. Mais le nombre de femmes magistrates dans les pays de tradition civiliste est en général nettement plus important que le nombre de femmes magistrates dans les pays de common law. Il n'y a pas, à ma connaissance, de statistiques générales sur le nombre de femmes magistrates dans les pays civilistes et le nombre de femmes magistrates dans les pays de common law. J'appuie donc mon constat sur les statistiques nationales suivantes. Aux États-Unis, un peu moins d'un tiers des juges fédéraux sont des femmes, y compris au sein de la Cour suprême. On retrouve cette proportion d'environ 30% en Australie, en Nouvelle-Zélande ou encore en Inde. En Afrique du Sud, cette proportion est de moins d'un cinquième. En Angleterre, environ 22% des juges sont des femmes. Mais à l'instar de ce que l'on observe dans les autres secteurs où les femmes sont minoritaires, cette proportion diminue lorsque l'on grimpe dans la hiérarchie judiciaire. Seuls 15,5% des juges au sein des High Courts et 10,5% des juges au niveau des cours d'appel sont des femmes. Et seule une femme, Brenda Hale, qui nous fait d'ailleurs l'honneur de conclure ce colloque, a été nommée à ce jour à la Cour suprême du Royaume-Uni. En comparaison, le nombre de femmes à siéger dans les pays de tradition civiliste est nettement plus important. En France, par exemple, 60% des juges judiciaires sont des femmes. En Belgique, près de la moitié des juges siégeant dans les cours et tribunaux sont des femmes. La proportion des femmes dans la magistrature italienne, portugaise, tchèque, suédoise, polonaise, hollandaise et autrichienne varie entre 44% et 63%. Les femmes sont donc en général bien représentées dans la magistrature des pays civilistes, du moins dans les pays occidentaux de tradition civiliste. Deux bémols cependant. Premier bémol, dans certains pays de tradition civiliste, la proportion de femmes juges se rapproche du pourcentage des pays de common law. Je pense par exemple à la Suisse, qui compte 31% de juges, de femmes parmi ses juges, à la Norvège, qui en compte 36%, ou encore à l'Allemagne, qui en compte 38%. Deuxième bémol, même dans les pays où les femmes sont bien représentées dans la magistrature, leur présence reste souvent confinée aux juridictions inférieures. Pour ne prendre que l'exemple belge,
Bien que la moitié des juges en Belgique soient des femmes, on ne retrouve pas cette parité au niveau des juridictions supérieures. La Cour de cassation belge ne compte que 18% de femmes, le Conseil d'État 27%, et seule une femme pour 11 hommes siège à la Cour constitutionnelle. Un premier constat donc, le nombre de femmes à siéger dans les pays de tradition civiliste est nettement plus important que le nombre de femmes à siéger dans les pays de tradition common law. Passons maintenant à notre deuxième constat. De plus en plus d'instruments juridiques imposent une composition diversifiée en termes de genre du siège de certaines juridictions. C'est notamment le cas pour la Cour constitutionnelle belge, pour la Cour constitutionnelle sud-africaine, pour la Cour pénale internationale, pour la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, ou encore les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Plus largement, la présence des femmes dans la magistrature est une question qui est à l'agenda politique, tant dans des pays de common law que dans des pays de tradition civiliste. Entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe, c'est l'ouverture de la magistrature aux femmes qui a fait débat. Mais l'accès des femmes à la magistrature, qui est aujourd'hui presque universel, n'a pas mis fin au débat. Et schématiquement, le débat s'est concentré soit sur la sous-représentation trop faible des femmes dans la magistrature et en particulier au niveau des juridictions suprêmes, c'est notamment le cas en Angleterre, aux États-Unis ou en Belgique, soit le débat s'est concentré sur la féminisation, sous-entendu la trop grande féminisation de la magistrature, ce qui est notamment le cas en France, même si aujourd'hui la sous-représentation des femmes aux fonctions juridictionnelles de premier ordre commence elle aussi à être discutée. Un deuxième constat donc, la diversité de genre est une question à l'agenda politique tant dans les pays de common law que dans les pays civilistes. Il est temps maintenant de passer au troisième constat. La diversité de genre au sein de la magistrature a été l'objet de nombreuses études dans les pays de common law, dans la littérature anglophone, et ce depuis les années 70, ou 70 pour les Français d'entre nous, alors que cette question est restée relativement inexplorée dans la littérature francophone. Quatre grandes catégories de questions ont été abordées dans la littérature anglophone sur les femmes et la justice. Premièrement, où sont les femmes dans la magistrature ? Comment les femmes sont-elles devenues juges ? Deuxièmement, est-il désirable, voire nécessaire, que la magistrature soit composée paritairement d'hommes et de femmes ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Troisièmement, les femmes jugent-elles différemment des hommes ? La diversité de genre dans la composition a-t-elle un impact sur la justice ? A-t-elle pour impact d'augmenter la qualité des décisions de justice ? Et enfin, quatrièmement, comment assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans la magistrature ? Faut-il avoir recours aux quotas ou à d'autres techniques ? Au regard de la richesse de la littérature anglophone, la pauvreté de son équivalent francophone ne peut que frapper. La question du genre des juges y est restée relativement peu explorée, à l'exception des travaux de recherche menés par certaines pionnières, telles Anne Boisjol, que nous aurons le plaisir d'écouter tout à l'heure. Non seulement le nombre de recherches menées en français sur les femmes juges est relativement faible, mais le spectre des questions étudiées par les études francophones est nettement plus limité que le spectre des questions étudiées dans la littérature anglophone. La plupart des études écrites en français répondent aux questions suivantes. Quelles étaient les stratégies des premières femmes juges ? Quelles ont été et quelles sont les stratégies des hommes face à la féminisation de la magistrature ? Ou encore, la féminisation de la magistrature a-t-elle eu un impact sur le prestige de la profession ? Très peu de recherches francophones ont donc questionné la diversité de genre comme objectif à atteindre, ou encore les moyens à mettre en œuvre pour atteindre un tel objectif. Très peu de recherches ont été consacrées à l'impact éventuel du genre sur la justice. Mais il y en a. Je pense par exemple à une étude française dont les résultats viennent d'être publiés et qui porte sur le juge aux affaires familiales. Cette étude s'inscrit dans le contexte d'une surreprésentation des femmes parmi les juges aux affaires familiales, surreprésentation qui est fortement critiquée par certaines associations de pères, telles SOS Papa, qui considèrent que les femmes rendent des jugements en général plus favorables aux mères qu'aux pères. L'étude déconstruit cette critique et montre que le contenu d'une décision de justice ne varie pas selon le sexe du juge qui rend la décision. Par contre, ce que l'étude montre, c'est que les juges de sexe masculin et les juges de sexe féminin n'envisagent en général pas leur rôle de la même façon. Un troisième constat donc, la diversité de genre comme objet d'étude a été fortement développée dans les pays de common law, alors qu'elle est restée relativement inexplorée dans la littérature francophone. Partant des trois constats que nous avons posés, à savoir, il y a plus de femmes juges dans les pays de droit civil que dans les pays de common law. La diversité de genre dans la magistrature est à l'agenda politique tant dans des pays de common law que dans des pays civilistes. Et enfin, cette diversité de genre est un objet d'étude dans la littérature anglophone depuis les années 70, alors qu'elle est relativement peu étudiée dans la littérature francophone. Partant de ces trois constats, nous avons étudié les deux axes principaux du colloque. Premier axe, les questionnements relatifs à la présence, à la justification et à l'impact de la diversité de genre dans la magistrature. Deuxième axe, l'influence qu'exercent les cultures juridiques sur ces questionnements. Je vous propose donc dans ce colloque de questionner, au travers du prisme des cultures juridiques, la réalité, la justification et l'impact de la diversité de genre au sein de la magistrature. Lorsque je parle de culture juridique, je vise essentiellement la culture juridique de common law et la culture juridique civiliste. Bien sûr, cette classification sous forme binaire est un peu réductrice. Mais cette classification a des vertus pédagogiques. Le rôle du juge a en effet été pensé de façon suffisamment distincte dans les deux traditions juridiques pour pouvoir prendre ces cultures juridiques comme idéotypes weberiens. Comment le juge est-il donc représenté dans ces deux cultures juridiques ? Je serai très brève ici et me contenterai de mettre en évidence les différences qui existent dans la représentation, et j'insiste sur ce mot de représentation, du juge et de son rôle dans les deux cultures juridiques étudiées. Comme vous le savez, dans la tradition civiliste, le juge a originellement été conceptualisé, pour emprunter à Montesquieu, comme la bouche de la loi, comme une machine à syllogisme qui appliquerait mécaniquement la loi, produit de la volonté générale. Le juge disparaît en tant que personne et réapparaît en tant qu'organe de l'institution judiciaire. Dans la tradition de common law, par contre, le juge a assez tôt été pensé comme un véritable acteur du système, comme un véritable sujet du système juridique qui participe à l'élaboration du droit, que ce soit par le développement de la common law ou par l'interprétation de normes adoptées par d'autres instances. Le juge est perçu comme un héros culturel, selon l'expression de Merriman, comme un personnage public. Aux côtés des cultures juridiques de common law et civiliste, on étudiera également la diversité de genre au sein des juridictions internationales, parce que nous posons l'hypothèse que ces juridictions constitueraient un lieu de métissage entre les différentes cultures juridiques étudiées. Le colloque vise donc à questionner, au travers du prisme des cultures juridiques, la réalité, la justification et l'impact de la diversité de genre dans la magistrature. Je vous propose de tester deux hypothèses dans le cadre de cette conférence et je vais maintenant vous les présenter. Ma première hypothèse est la suivante. Les différences dans la représentation du juge et de son rôle entre la culture juridique civiliste et la culture juridique de common law explique qu'il y ait moins de femmes juges dans les pays de common law que dans les pays de tradition civiliste. Je vais maintenant développer quelque peu cette première hypothèse. Dans la tradition civiliste, comme je viens de l'esquisser, les juges ont été invisibilisés. Ils ont été pensés comme des fonctionnaires anonymes, appliquant de façon quasi mécanique la loi. Alors que dans la tradition de common law, les juges sont reconnus comme de véritables acteurs du système juridique, des acteurs qui participent à l'élaboration du droit. Ces différences dans la représentation, et j'insiste à nouveau sur ce mot de représentation, expliquent, me semble-t-il, que les femmes aient pu accéder plus facilement en masse à la magistrature dans des pays de tradition civiliste que dans des pays de common law. En effet, dans les pays de tradition civiliste, la magistrature n'a pas été conceptualisée comme étant autant un lieu de pouvoir que dans les pays de tradition common law. Tout comme les juges ont été invisibilisés dans la tradition civiliste, le pouvoir qu'ils exercent est plus caché que dans la tradition common law. Ceci explique, à mon sens, en partie du moins, que plus de femmes soient devenues juges dans la tradition civiliste que dans la tradition common law. Alors je pense que cette explication ne contredit pas l'explication qui est la plus souvent avancée dans la littérature, à savoir que s'il y a plus de femmes juges dans les pays de tradition civiliste, c'est parce que les juges sont le plus souvent recrutés sur base d'un concours ou d'un examen d'entrée. Alors que dans les pays de common law, la procédure de nomination est moins transparente et plus dépendante de l'existence d'une carrière préalable prestigieuse. L'hypothèse que je vous propose ne contredit pas cette première hypothèse, ne contredit pas cette explication plus traditionnelle, parce que je pense que la représentation que l'on se fait du juge justifie le choix du mode de recrutement. Lorsque le juge est pensé comme la bouche de la loi, comme une machine à syllogisme, il fait sens de le recruter par concours. Recruter par concours permet, idéalement, du moins, de faire abstraction de l'identité des candidats, des candidates, pour se concentrer uniquement sur leurs compétences à être cette bouche de la loi, cette machine à syllogisme. Le concours doit permettre de trouver la personne idéale pour la fonction, et c'est d'une façon presque désincarnée. Ma première hypothèse, donc, les cultures juridiques expliquent la disparité qui existe dans la représentation des femmes au sein de la magistrature. Passons maintenant à la deuxième hypothèse. Les différences dans la représentation du juge et de son rôle entre la culture juridique civiliste et la culture juridique de common law n'influencent de façon substantielle ni les arguments en faveur de la diversité, ni l'impact que peut avoir cette diversité sur la justice. Je m'explique. Dans la littérature anglophone, quatre arguments principaux ont été invoqués pour justifier la diversité de genre comme objectif à atteindre. Premièrement, une composition diversifiée en termes de genre serait nécessaire pour des raisons symboliques et éducatives. En effet, les juridictions, qui sont des organes exerçant du pouvoir, ont des vertus expressives fortes. Elles expriment non seulement quelles sont les personnes qui devraient exercer le pouvoir, mais également les personnes qui sont capables d'exercer ce pouvoir. Une magistrature composée des deux sexes aurait des effets bénéfiques sur ces deux aspects. D'une part, la présence des femmes dans la magistrature, y compris au sein des cours suprêmes, exprimerait que tant les hommes que les femmes sont faits pour exercer le pouvoir. D'autre part, une présence équilibrée des hommes et des femmes dans la magistrature indiquerait que les décisions juridictionnelles qui peuvent affecter grandement la vie des citoyens, sont prises par une magistrature qui ressemble à la société. Cet argument se rapproche d'un deuxième argument. La diversité de genre dans la magistrature serait une condition de sa légitimité. Il s'agirait d'une condition de sa légitimité, car d'une part, la diversité reflèterait les valeurs communes sur lesquelles la société est fondée, à savoir l'égalité entre les sexes, l'égalité des chances et le respect de la différence. Mais il s'agirait également d'une condition de légitimité, car elle serait une condition nécessaire pour que le public ait confiance dans l'institution judiciaire. Une troisième catégorie d'arguments est souvent invoquée dans la littérature anglophone. Plus de femmes dans la magistrature représenterait une meilleure utilisation des ressources humaines, car plus de la moitié des diplômés en droit sont des femmes. Enfin, quatrième catégorie d'arguments, la diversité de genre au sein de la magistrature aurait un impact sur la justice. Elle augmenterait la qualité des décisions de justice. Dans la littérature, on distingue deux types d'impact. L'impact que j'ai appelé substantiel, c'est l'impact que pourrait avoir le genre sur les contenus des décisions de justice. Et l'impact que j'ai appelé processuel, c'est l'impact que pourrait avoir le genre sur la façon dont se déroule le procès. Cette question de l'impact peut être posée de façon extérieure. Les chercheurs, les chercheuses, tente alors d'évaluer la mesure dans laquelle le genre a une influence concrète sur le contenu des décisions de justice et ou sur la façon dont celles-ci sont rendues. Pour évaluer les impacts de genre de cette façon, on peut notamment lire des décisions de justice, les comparer en fonction du genre du juge qui l'a rendu, ou encore réaliser des observations d'audience. Mais la question de l'impact peut également être posée de façon plus subjective. Elle est alors posée aux juges eux-mêmes, aux juges elles-mêmes. Il s'agit alors de savoir dans quelle mesure les juges considèrent que leur propre genre ou le genre de leurs collègues influence l'exercice de leurs fonctions. Le caractère souvent performatif des discours sur le genre peut impliquer que les réponses qu'ils et elles apportent à ces questions influeront de facto l'impact substantiel et ou processuel du genre sur la justice. je propose l'hypothèse que ces arguments ne perdent en rien leur pertinence lorsqu'ils sont transplantés dans un contexte culturel civiliste. Même si cette transplantation peut amener à formuler ces arguments de façon quelque peu différente. En disant cela, je ne dis pas qu'il faut accepter ces arguments tels quels. Je ne dis pas qu'il ne faut pas questionner leurs prémices théoriques et leurs conséquences pratiques. Ce que je souhaite mettre en lumière, c'est que la nécessité d'une plus grande diversité dans la magistrature ne se fonde pas sur des arguments essentiellement différents selon qu'ils sont invoqués dans la culture juridique civiliste ou dans la culture juridique de common law. De même, ces arguments soulèvent des questions qui ne sont pas foncièrement différentes selon qu'elles sont formulées dans le contexte culturel civiliste ou dans le contexte culturel de common law. Parmi ces questions, je souhaiterais en épingler trois. Premièrement, admettre que la diversité de genre constituerait une condition de légitimité des tribunaux implique-t-il d'abandonner, du moins partiellement, le mythe de l'impartialité ou à tout le moins de la neutralité du juge? Un tel abandon est-il souhaitable ou au contraire problématique? Deuxièmement, des instruments juridiques imposent des quotas nationaux et ou linguistiques dans la composition, notamment de la Cour constitutionnelle belge ou de la Cour européenne des droits de l'homme. L'existence de ces quotas n'est que rarement remise en cause, alors que les quotas de genre sont souvent entourés de suspicions. Doit-on en déduire que certaines de nos caractéristiques sont plus relevantes que d'autres pour performer l'acte de juger? Troisièmement, dans quelle mesure un tribunal, qui n'est pas un parlement, se doit-il d'être représentatif? Et s'il était jugé important, voire nécessaire, que pour assurer leur légitimité, les tribunaux soient composés paritairement d'hommes et de femmes? Ce besoin de diversité demanderait-il que nos tribunaux soient composés de différentes classes sociales, de différentes minorités ou encore de personnes présentant des orientations sexuelles différentes? Certaines minorités ont-elles plus de légitimité à être représentées que d'autres? Si oui, pourquoi et lesquelles? Et sinon, ne risque-t-on pas de transformer nos juges en des protecteurs et des protectrices de leur minorité contre les autres? Ma deuxième hypothèse donc, les différences dans la représentation du juge entre la culture juridique de common law et la culture juridique civiliste n'influencent pas les arguments en faveur de la diversité, ni l'impact éventuel que le genre peut avoir sur la justice. Les deux hypothèses que je viens de vous présenter, à savoir les différences dans la représentation du juge entre les deux cultures juridiques, expliquent qu'il y ait plus de femmes juges dans les pays civilistes que dans les pays common law, et les différences dans la représentation du juge entre les deux cultures juridiques n'influencent ni les arguments en faveur de la diversité, ni son impact. Ces deux hypothèses sont sans doute formulées de façon trop tranchée pour être adéquates. Mais il s'agit bien d'hypothèses et non de conclusions. J'espère que ce colloque nous permettra de tester ces hypothèses et que vendredi soir, nous serons collectivement en mesure de confirmer, d'infirmer ou de nuancer ces hypothèses. Je vais maintenant passer à la présentation du colloque proprement dit. Comme vous l'aurez sans doute lu dans le programme, le colloque se divise en trois sessions principales. Dans chacune des sessions, nous poserons les questions sous la forme d'un triptyque, c'est-à-dire que nous poserons les mêmes questions dans la tradition civiliste, dans la tradition de common law et au sein des juridictions internationales. Nous espérons ainsi que nous serons en mesure de tester les hypothèses que je vous ai soumises. Chaque session aura lieu en trois temps. Dans un premier temps, nous entendrons des exposés de 25 minutes sur la question posée dans la session. Dans un deuxième temps, une table ronde discutera les différents exposés et les différentes questions qu'ils soulèvent. Et enfin, dans un troisième temps, un débat aura lieu avec la salle, avec vous donc. La première session du colloque, qui sera présidée par Joanne Poirier, a trait à la réalité de la présence des femmes dans la magistrature. Cette session occupera toute cette première journée. Les orateurs et les oratrices y répondront à la question suivante. Où sont les femmes dans la magistrature? Anne Boisjol nous présentera la situation française. Pascal Vielle, la situation belge. Judith Resnick nous parlera de la présence des femmes dans la magistrature aux États-Unis. Kate Mallison nous présentera la situation en Angleterre. Arvind Agrawal nous parlera de la situation indienne. Et enfin, Nin Grossman nous présentera une analyse de la présence des femmes au sein des juridictions internationales. Ces différentes interventions seront ensuite discutées par une table ronde présidée par David Paternotte et à laquelle participeront Daniel Mulders, Michel Pastel, Bérangère Marquez Pereira et Alison Woodward. Première session du colloque. Après avoir fait l'état des lieux de la présence des femmes dans la magistrature, nous nous concentrerons demain sur l'impact et la justification de la diversité de genre au sein de la magistrature. La deuxième session du colloque, présidée par Anne Lagerval, s'intéressera donc à la diversité de genre comme condition de légitimité des juridictions. Ulrike Schulz, qui vient d'un pays de tradition civiliste, l'Allemagne, Sally Kenny, qui vient d'un pays de tradition common law, les États-Unis, et Françoise Tulkens, ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme, nous traiterons toutes les trois de la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans la magistrature comme condition de leur légitimité. Leurs interventions seront ensuite discutées par une table ronde présidée par Julie Allard et à laquelle participeront Julien Pierret et Jacques Comaille. La troisième session du colloque, présidée par Julien Pierret, s'intéressera à l'impact de la diversité de genre dans la magistrature. Il y a 20 ans, Bertha Wilson, qui fut la première femme nommée à la Cour suprême du Canada, se demandait si les femmes juges feraient une différence. Lors de cette troisième session, les orateurs et les oratrices tenteront de répondre à cette question. Laura Ely nous présentera le résultat de ses recherches doctorales qui portent sur l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Marie-Claire Bello et Rebecca Johnson nous parleront des femmes à la Cour suprême du Canada. Caroline Simon nous entretiendra du résultat de ses recherches qui portent sur le juge belge. Et enfin, Thomas Léonard nous parlera de l'influence du juge sur les décisions rendues par les tribunaux correctionnels en France. Ces présentations seront ensuite discutées par une dernière table ronde, présidée par Barbara Truffin, et à laquelle participeront Paul Martens, Nicole Gallus et Erika Rackley. Après ces deux journées d'études, nous pourrons revenir sur les constats de départ et les hypothèses que nous avons soumises au débat. Nous espérons alors que nous pourrons poser des balises pour penser ce vaste chantier. Cette mission périlleuse a été confiée à deux éminentes juges, à deux éminentes femmes juges, Baroness Hale of Richmond, juge à la Cour suprême du Royaume-Uni, et Suzanne Baer, juge à la Cour constitutionnelle allemande. Elles nous ont toutes les deux fait l'honneur d'avoir accepté de conclure ce colloque, et je les en remercie déjà vivement. Avant de terminer cette introduction générale, j'aimerais encore remercier quelques personnes sans lesquelles ce projet n'aurait jamais pu aboutir. J'aimerais commencer par remercier les orateurs et les oratrices. Merci d'avoir accepté de venir nous présenter le fruit de vos travaux, de vos recherches et de vos expériences. J'aimerais également remercier Benjamin Leichtermann, Valérie Thomas et Nadia Seron pour leur aide inestimable dans l'organisation de ce colloque. Merci pour votre engagement dans ce projet. Sans vous, ce colloque n'aurait pas pu avoir lieu. J'aimerais également remercier les promoteurs de l'action de recherche concertée sur le juge un acteur en mutation dont Annemie vient de vous parler, sur lesquels, à savoir Julie Allard, Olivier Corten, Pierre Klein et Joanne Poirier, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en m'autorisant à mener ce projet. J'aimerais encore adresser mes remerciements les plus chaleureux aux membres du comité scientifique. Merci à Françoise Tulkens d'avoir accepté de le présider. Merci à Baroness Hale pour sa disponibilité et son inestimable soutien dans l'organisation de ce colloque. Merci à Rebecca Johnson et à Marie-Claire Bello pour l'expertise qu'elles ont mis toujours avec chaleur à notre disposition. Merci à Jacques Comaille d'avoir mis au service du colloque avec tant de gentillesse son expérience et ses contacts. Merci à Julien Pierret pour son engagement dans le projet dès ses débuts. Merci à Anne Lagerval d'avoir porté à mon attention la mercuriale du procureur général Dale Wade, mais plus généralement, merci pour son aide dans la réalisation de ce projet. Merci à David Paternot de nous avoir ouvert ses connaissances et ses réseaux d'études sur le genre. Merci à Joanne Poirier d'avoir soutenu ce projet dès ses débuts. Et je voudrais terminer en adressant un merci particulier à Julie Allard pour la constance, la bienveillance et l'intelligence avec laquelle elle a soutenu ce projet. Enfin, merci au public d'être venu, parfois de loin, pour assister à cette conférence. Sans vous, cette conférence n'a pas de sens. Je nous souhaite de passer deux belles journées de colloque et je passe la parole à la présidente de la première session, Joanne Poirier.